Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Et en tout cas, ce sera un test décisif pour l'Europe, a dit hier Angela Merkel, de l'immigration, alors que la crise franco-italienne au sujet de l'Aquarius est montée d'un cran hier. Ce dernier épisode d'une crise migratoire européenne est surtout une bataille politique emblématique. Effectivement, c'est l'urbanisation. Bonjour Sylvain Kahn.
Bonjour Xavier Martinet, bonjour à tous.
Cette notion que vous avez contribué et même inventé tout récemment, l'urbanisation, vous êtes enseignant-chercheur au Centre d'Histoire de Sciences Po, ancien producteur de Planète Terre sur France Culture. Vous venez de publier aussi l'histoire de la construction de l'Europe depuis 1945 au PUF. Et justement, cette urbanisation, elle est intéressante puisque inconnue il y a quelques jours, désormais le chef du nouveau gouvernement italien fait vaciller l'Union européenne comme certains gouvernements donc en Italie, Autriche, Pologne, Danemark, qui ont pour point commun un certain souverainisme fiscal et migratoire et une pratique politique, on le voit, aux limites du droit international. Cette urbanisation du nom du chef du gouvernement hongrois au pouvoir depuis 2015, c'est une stratégie qui n'est pas tout à fait dans le consensus diplomatique, aux limites aussi du spectre politique institutionnel, et pourtant est toujours plus que jamais dans l'Europe. C'est ce que vous écrivez dans une série d'articles, Sylvain Kahn. C'est parti compte peser lors des élections en 2019 jusqu'à constituer peut-être une sorte de souverainisme européen nouveau. En tout cas, MS5 et Lega, pour parler de l'Italie, pourraient mettre en œuvre un programme et une pratique de gouvernement radicalement inattendu. C'est ce que vous écriviez récemment. On en a un peu d'illustration là, mais pas si inattendu peut-être.
Bah, disons, au fur et à mesure que les jours passent, ça devient de moins en moins inattendu, puisque avant que ce gouvernement italien, qui était inattendu à l'issue des élections du 4 mars, se soit mis en place, il y a eu deux mois. Donc deux mois pour préparer l'opinion, pour que les gens se fassent à l'idée qu'effectivement, même en Italie, il puisse y avoir l'arrivée d'une part des populistes et d'autre part de l'extrême droite. Et en effet, je pense que, disons, ce terme d'urbanisation que j'ai proposé faute de mieux, c'était simplement pour dire que il fallait pas simplement imaginer que ce qui se passait en Europe centrale et orientale, c'est-à-dire la victoire de gouvernements illibéraux avec Viktor Orban et la Fidesz, qui est quand même au pouvoir depuis 2010, hein, ça fait quand même trois victoires électorales de rang. C'était quelque chose qui n'était pas, on va dire, spécifique, on va dire, à ces pays tard venus qui avaient été colonisés par les communistes alors qu'ils étaient encore un peu bizarres et dont on pouvait s'exonérer. Non, c'est bien un phénomène qui concerne toute l'Europe où on trouve effectivement, de façon différente selon les pays, des programmes électoraux avec des gens qui gagnent et qui disent on va maintenant s'affranchir de l'état de droit. On est toujours pour les élections, bien sûr, on est toujours pour le multipartisme, mais l'état de droit, après tout, c'est un peu une cerise sur le gâteau, quoi. Hein, voilà. Alors c'est vrai qu'en Hongrie, ça se fait, on va dire, de manière extrêmement poussée dans beaucoup de domaines. En Pologne, ça se fait dans un certain nombre de domaines, en particulier la Constitution, enfin les libertés prises avec la Constitution. Et puis, dans un certain nombre de pays qui sont plutôt des pays d'Europe de l'Ouest, entre guillemets, comme le Danemark que vous avez cité. On pourrait aussi parler de la Finlande, de l'Autriche maintenant, où il y a un gouvernement droite, extrême droite, et puis de l'Italie. Et même à certains égards, en réalité, y compris en France, mais de manière beaucoup plus soft, on prend des libertés vis-à-vis de l'état de droit concernant les étrangers et les migrants. Ce qu'on pourrait donc appeler comme une espèce de fin de l'universalité de la mise en œuvre de l'état de droit en Europe.
Et alors précisément, ce qui se, la différence, disons, face à l'urbanisation d'il y a quelques années des pays d'Europe orientale, c'est que là, on a un phénomène qui touche certains pays fondateurs, comme l'Italie, fondateur de l'Union européenne. On les voit s'associer tout récemment, ça s'accélère hier, dans un axe des volontaires qui compte faire de la lutte contre l'immigration illégale, disent les chancelleries autrichiennes, allemandes et italiennes, un des piliers, disons, de leur campagne en 2019. Là, on a un véritable danger pour l'Union européenne, comme le dit le président du Parlement, Antonio Tajani.
Oui, alors Tajani, le président du Parlement européen, il a même été jusqu'à dire, enfin en tout cas dans la traduction française, il a été jusqu'à dire que plus loin, migrations constituaient un danger mortel ou très très important pour l'UE. Alors, c'est très intéressant cette formulation. Bon, Tajani, c'est un type qui vient de Forza Italia, donc déjà il faut se rappeler que Le populisme en Europe, en réalité, ça commence au milieu des années 90 avec Berlusconi, Forza Italia, qui est déjà une manière un peu spéciale, on va dire, de dire sortez les sortants. Hein. Tout le monde a vu ou se souvient en tous les cas du film Le Caïman, hein, oui. Le magnifique film de... Je me tourne vers Jacques Meunier parce que à l'instant, j'oublie le nom du réalisateur pourtant italien très connu. Donc effectivement, vous voyez, dire que les migrations sont un danger mortel pour l'UE, c'est quand même une manière de dire, même de façon soft, que c'est les migrants le problème. Hein. Alors évidemment, il y a une crise migratoire, moi non, j'aime pas tellement ce mot, mais dans le sens où il y a effectivement des mouvements migratoires importants depuis 10 ou 15 ans, c'est pas la première fois, dont les Européens ont un peu du mal, auxquels les Européens, pardon, ont un peu du mal à faire face. Mais ce qui est véritablement problématique, c'est que les Européens ne savent pas comment y faire face. C'est plutôt ça. Hein. Alors effectivement, l'urbanisation dont on parle, ça veut dire que il y a un grand changement. C'est que les partis en question, donc encore une fois, répétons-le, ils sont au pouvoir en Hongrie depuis 2010, en Pologne depuis 2015, en Autriche depuis 2017, au Danemark depuis 2015. En France, ils ont été au deuxième tour de la présidentielle, mais ils ne sont pas au pouvoir ou pas encore au pouvoir. Ils sont nationalistes. Voilà, ça c'est hyper important. Et ce nationalisme, hein, donc ils sont libéraux, on l'a dit tout à l'heure, ils sont nationalistes, et ce nationalisme simplement est différent aujourd'hui de ce qu'il était traditionnellement, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle. Traditionnellement, le nationalisme consiste à dire « ma nation est au sommet d'une hiérarchie de toutes les nations ». Et « ma nation est mieux que celle de mon voisin étant encore mieux que celle du voisin qui est encore plus loin ». Bien. Aujourd'hui, les nationalistes d'Europe sont différentialistes. Hein, dans la tradition fondée par Alain de Benoît et le Grèce dans les années 70, ils disent, voilà, après tout, toutes les nations ont le droit d'exister, il n'y en a pas forcément qui sont meilleures que d'autres. Mais non au mélange, parce que le mélange dissout les nations.
Sans hiérarchie des nations, donc une sorte de souverainisme européen, voilà. comme vous l'écrivez, mais qui pose problème quand même au sein des institutions de l'européenne et, européenne et même des partis, puisqu'on voit en ce moment que le Parti Populaire Européen, donc la Grande Alliance des Conservateurs, se divise sur la question de l'exclusion ou non de Viktor Orban.
Voilà, parce qu'effectivement, ce qui est assez étrange dans cette affaire, c'est que le parti de Viktor Orban, la Fidesz, est membre de cette grande famille des partis de droite, qui sont aussi les partis démocrates chrétiens, donc le PPE, Parti Populaire Européen, parce que, historiquement, la Fidesz et Orban étaient, un parti de centre-droit, au début des années 90, c'est la première fois qu'ils ont gagné les élections, en 98. Ils ont été au pouvoir 4 ans jusqu'en 2002 et Orban est revenu au pouvoir en 2010 sur un programme très nationaliste. Alors effectivement, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'en fait, depuis un certain nombre d'années, hein, et on le voit bien avec l'évolution actuelle du ministre de l'Intérieur allemand, qui est Monsieur Hofer, et qui a fait cet axe des volontaires dont vous parliez, Xavier Martinet, avec ses homologues autrichiens et italiens, auxquels faut associer quand même les Danois qui sont dans le coup, et peut-être même les Hollandais, hein, qui ont dit, il y a une semaine, qui ont dit, ben nous on a une idée géniale, on va ouvrir des centres de rétention pour les migrants à l'extérieur de l'UE. Alors tout le monde s'est dit, mais dans quel pays veulent-ils le faire ? Alors on suppose, on subodore que ça serait, qu'ils auraient déjà passé un espèce de pré-deal, probablement avec l'Albanie, hein, qui par ailleurs cherche à rentrer dans l'Union
Ce
européenne.
Ce qui reviendrait à décréter unilatéralement les hotspots, comme on disait de
voilà. Hein, donc là, on serait effectivement sur des choses qui seraient contraires à l'état de droit, dans le sens où on dirait, bon écoutez, après tout, on s'affranchit à la fois de la Convention européenne des droits de l'homme, on s'affranchit d'un certain nombre de règles sur les procédures d'asile, et on considère, c'est ce que vient de proposer Hofer, et d'ailleurs sa chancelière Angela Merkel est en désaccord avec ça, mais va-t-elle réussir à le contrer, hein, on dit, ben voilà, dès qu'un migrant arrive et que nous, on veut pas qu'il rentre parce qu'on suppose qu'il n'a pas de papier, qu'il est illégal et qu'on ne veut pas qu'il dépose un dossier pour obtenir ou pas le statut de réfugié, dès qu'il arrive, hop, on le chope et puis on le renvoie dans un camp à l'extérieur, imaginons l'Albanie. Alors, en même temps, soyons pas hypocrites, ça se fait déjà aujourd'hui avec la Libye, ça se faisait du temps de Ben Ali avec la Tunisie, donc en vérité, il faut bien voir ce dont il s'agit. Je pense que si on décode bien ce que proposent les ministres de l'Intérieur d'Allemagne, d'Italie et d'Autriche, avec le soutien de leurs homologues danois et peut-être, semble-t-il, néerlandais, c'est en fait de renvoyer les gens. Hein, c'est pas de les bloquer à la frontière comme on l'a fait depuis 10 ans avec les Libyens.
D'avoir la possibilité, comme Matteo Salvini le voulait dans son programme, de renvoyer en masse.
C'est ça, voilà. Et à mon avis, c'est ça qui va se passer. Alors évidemment, il va y avoir... Alors, si vous voulez, de deux choses l'une. Soit Il va y avoir une bataille d'opinion. Aujourd'hui, on voit bien, il suffit de regarder la tweetosphère, comme on dit maintenant, ou la Facebook-sphère, depuis 3 jours, pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui applaudissent des deux mains dans toute l'Europe l'attitude de Salvini. Bon. En Italie, il y a déjà des gens qui sont vent debout contre cette politique. D'accord ? Il va y avoir une bataille de l'opinion. Aujourd'hui, par exemple, la France, elle se situe pas, puisqu'elle dit qu'il faut respecter le droit maritime. Bon, mais ça va beaucoup dépendre de ça. C'est-à-dire, donc, en clair, là, on peut le dire à la radio, hein, les gens qui pensent qu'il faut agir d'une certaine façon, c'est-à-dire en étant plus hospitalier, bah, c'est le moment de le dire, quoi.
Ben, écoutez, à suivre, en tout cas, cet axe des volontaires et ce que font les autres partis aussi pour cette campagne pour les élections européennes 2019. Merci beaucoup, Sylvain Kahn. On renverra à votre livre sur le site de France Culture, Histoire de la construction de l'Europe depuis 1945.